Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 36. À Bruxelles et Londres, ils sont plus chauds que le climat.
Full Continental. Caroline Gillet. Sur France Inter et la RTBF.
À Bruxelles, la gare du Nord est dans un quartier d'affaires complètement sinistre, conçu pour faire de la place aux voitures et donc très peu chaleureux pour les piétons. Or, ce jour-là, à la descente du train, il y avait des adolescents et des pancartes multicolores et rieuses, et ils scandaient « Chaud, on est plus chaud que le climat ». Timidement pour les plus jeunes, pour eux tous, c'est une première fois, se mettre debout, se rassembler, crier, c'est le réveil de la citoyenneté. Il pleut un peu, mais ça, on ne le dira pas.
Bah, c'est la première fois que je fais des manifs pour une cause et c'est le climat.
J'avais fait la Gay Pride, mais c'est une manif.
Tous participent à la grève de l'école pour le climat.
En gros, on aimerait montrer aux politiciens qu'on n'est pas d'accord parce qu'ils ne nous écoutent pas. Les jeunes disent qu'on n'est pas assez expérimentés pour savoir ce qui se passe. C'est vrai que ça peut aider si on coupe l'eau quand on se brosse les dents, tous les petits conseils que les politiciens nous donnent, mais c'est pas ça qui va faire changer.
Il faut qu'il y ait des plus grands que nous qui disent ce qu'on doit faire parce qu'on peut pas changer non plus tout seul parce qu'on n'est pas encore adulte. Et...
Il y a plus de neige, nous. Non, mais, il y en a beaucoup moins. Il y a plus de papillons,
Quand tu dis les politiciens, tu t'adresses à qui précisément? Qu'est-ce que tu crois qui peut bouger à leur niveau?
Il y a plusieurs choses à faire. Par exemple, tous les transports en commun, peut-être réduire le prix.
S'il y a trop de réchauffement climatique, il n'y aura plus rien. Enfin, c'est le plus gros problème.
Et les gens, les politiciens qui ne veulent pas se bouger maintenant, ce n'est pas eux qui vont vivre dans ce monde-là, c'est nous plus tard. Et c'est pour ça que je crois que c'est important de se bouger, de leur montrer qu'on ne veut plus continuer dans cette optique-là et qu'il faut changer.
Vous avez fait des pancartes? On brosse pour nos gosses. Ok, cool. Margem, c'est quoi Margem?
C'est la ministre de l'écologie.
Margem, tu dors, le climat va trop vite. Margem, tu dors, on a besoin de toi dehors. De la glace, j'en veux pas que dans mon burrito.
Je la prends toutes les manifs, donc elle est un peu abîmée.
Moi, ça, c'est une amie qui m'a donné cette bonne sans carbone. Parce que c'est mon petit frère qui a pris mon panneau, parce qu'il fait aussi des manifestations dans sa cour de récré maintenant. Je lui ai parlé des manifestations, il y en a souvent des discussions sur le climat et donc il a eu envie d'organiser ça avec le petit frère de Leïla aussi. Et du coup, ils ont commencé à deux avec nos pancartes et maintenant il y a plein de gens qui les suivent et donc voilà, c'est chouette.
Et lui, il a quel âge?
En 5e primaire, donc il a 10 ans.
Bah, merci beaucoup, bon merci. Courage alors. À Paris, le 16 mars, 50 000 manifestants marchaient pour le climat. Et c'était étonnamment joyeux, un peu comme une Gay Pride avec de la techno et des jeux de mots coquins. En quelques mois, l'écologie a changé de style. Greta Thunberg, la jeune militante suédoise, est devenue une icône. Et ça clash entre le monde qu'elle propose et celui qui résiste. Depuis quelques mois, en parallèle des marches pour le climat, des grèves scolaires, le groupe Extinction Rebellion semble vouloir participer à renverser ce système. Et ce, de façon de plus en plus spectaculaire. À Londres, ce groupe d'activistes pacifiques radicales qui prône la désobéissance civile a bloqué la capitale pendant 10 jours. J'y suis allée rencontrer deux frères qui ont occupé des ponts. Et puis j'ai rencontré Claire aussi, qui avec la branche française du mouvement, suit l'exemple.
Il peut y avoir une espèce de crainte à l'idée de s'engager dans des actions qui potentiellement peuvent nous mener à une garde à vue ou des choses comme ça. Là-dessus, c'est assez réconfortant de regarder l'histoire et de constater qu'en fait, les grandes bifurcations... Elles n'ont pas eu lieu lorsque les gens sont allés gentiment manifester avec autorisation de la préfecture. Elles ont eu lieu lorsque un groupe de personnes déterminées ont décidé que ça ne pouvait plus continuer et qu'il fallait du coup prendre un peu des risques.
Claire a lu beaucoup de livres de penseurs sur l'écologie, sur l'état du monde. Elle a aussi observé de près ce qui se passait à Londres ces dernières semaines.
Dans cette gare de l'Est de Londres, tous les trains n'ont pas démarré ce mercredi.
Voilà un extrait de JT de l'RTBF pour vous donner une meilleure idée.
À leurs pieds, cet homme au gilet jaune a collé sa main gauche contre la rame avec de la colle forte pour être certain de marquer les esprits. Très vite, la police vient déloger et décoller les manifestants. l'action coup de poing est terminée.
Plus de 1000 arrestations de militants, des dizaines d'actions de blocage dans toute la capitale, des ponts fermés, avec l'aide notamment de deux frères qui m'attendent devant les bureaux de Extinction Rebellion, qui se trouvent dans un grand immeuble, c'est à Houston, à 10 minutes à pied de King's Cross, la gare où arrive Eurostar.
Salut, Caroline.
Dani.
Rémi, ben oui, il me semble bien.
Bonjour.
Denis.
Denis et Rémi, ce choix de prénom pour deux frères, ça me fait penser à ma mère, qui s'est rendu compte beaucoup trop tard qu'elle avait choisi des prénoms qui terminaient par « in » pour toutes ses filles.
Vous êtes frères ?
Ouais.
Ok.
Et ils n'en peuvent plus de cette question. Denis et Rémi se ressemblent beaucoup. Barbe de 3 jours, cheveux un petit peu plus longs pour Denis, qui a 24 ans. Un peu plus court pour Rémi, qui en a 27. Chemise sous blouson en jeans pour l'un, chemise sous pull à capuche pour l'autre.
C'est tout ce qui reste des actions, principalement du matériel de camping. Ouais. Enfin, c'était une semaine où les gens ils ont campé dehors. Ils ont dormi sur le pont dans des duvets. Donc,
sur du carton des fois.
Ouais, sur du carton parfois.
Donc il y a quoi? Il y a des grands sacs poubelles avec des vêtements.
Avec des duvets, des couvertures, des coussins.
Les bureaux du collectif sont très grands, apparemment prêtés par un mécène. Ils n'en savent pas plus.
Pendant les préparatifs de l'action, c'était...
C'était la folie.
C'était la folie, il y avait du monde partout. Il n'y a pas du tout assez de chaises pour que les gens s'assoient. Tout le monde était debout, c'était une rue, exactement.
Il y a des tables, des chaises très standards, des open space séparés par des vitres.
Il y avait beaucoup de matériel de musique.
Et derrière toi, il y a une couronne faite de branches et qui... pour former le symbole de Extinction Rebellion. Le logo d'Extinction Rebellion, c'est un cercle, comme une planète, avec deux triangles à l'intérieur qui représentent un sablier.
Un caddie de supermarché.
Mais il y a aussi des logos peints en couleur, des affiches vertes et roses, des plantes.
Une chaise roulante.
Dans la salle de bain, il y a des dentifrices et des brosses à dents pour tous ceux qui sont venus ici se laver entre deux nuits d'occupation.
Une passoire ? Ou ça doit être un instrument de musique ?
Ça doit être un instrument de musique. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a...
Il y a quelqu'un qui a tapé pas mal dessus. Et il y a des M&M's en libre service.
On s'installe dans une des salles, il y a des plans d'action avec des flèches et des diagrammes incompréhensibles sur les murs.
Là, c'est une dame en sari qui vient chercher ses affaires. Qui...
Ah, il y a vraiment toutes les générations. Hein.
Je dirais que oui, surtout des étudiants et des retraités. Eux, Denis et Rémi, ne sont pas ici à temps plein. Ils travaillent 2 jours par semaine, ils font de la musique. Leur groupe s'appelle Sound of a Bee's Heart, le son du cœur d'une abeille. Oui, c'est leur groupe qu'on entend là. Et c'est pour ça, pour la musique, qu'ils sont arrivés de Lyon à Londres il y a 6 ans.
Au départ, quand on est arrivé à Londres, c'était un petit peu avec le rêve américain. Sauf que Londres, c'était plus proche que les États-Unis, et donc plus pratique pour voir notre famille, etc.
Vous aviez quoi comme rêve américain? C'était quoi les groupes anglais?
Nous, c'était vraiment pour... les Beatles et puis des groupes américains aussi qui nous avaient influencés, mais...
Et puis apprendre la langue aussi.
Du coup, quand on est arrivé à Londres, au début, on a payé des rentes, etc. Et on a vite...
Payé des loyers.
Du coup, on a payé des loyers et on s'est vite retrouvé sans fonds, quoi, parce qu'à Londres, c'est très, 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 très cher.
Et vous allez l'entendre, il y aura dans cet épisode pas mal d'anglicisme. Dans ce cas-ci, je trouve ça plutôt charmant, mais je sais que ça peut faire débat. Par ailleurs, je me suis dit qu'il fallait que je vous dise à chaque fois qui de Rémi ou Denis tenait le micro, mais je pense qu'en fait, on va pas s'en sortir.
J'ai fait de la distribution de flyers dans les boîtes aux lettres. Et aussi, on a fait des distributions de sandwichs dans des offices, là où les gens travaillent, etc. On était à vélo avec des grosses remorques et énormément de vent. Et des fois, enfin, c'était vraiment le pur calvaire, quoi. Et sous-payé, etc., tout ce que tu veux.
Si Rémi et Denis semblent être des militants écolo-nés, s'ils sont devenus des habitués du mouvement radical Extinction Rébellion, leur engagement est en fait assez récent. Il a commencé parce qu'ils étaient fauchés. Un jour, alors qu'ils ne pouvaient plus payer de loyer, ils ont entendu parler d'un endroit où ils pouvaient loger gratuitement.
On s'est dit, ok, il faut qu'on aille habiter là-bas. Et pour se préparer, on a acheté un van qu'on a retapé, une ancienne bétaillère qu'on avait réaménagée en tiny house.
En mini-maison, donc.
On a fait bonne impression en arrivant.
Denis et Rémi se retrouvent à Grow Heathrow, un éco-village créé pour résister à l'expansion de l'aéroport d'Heathrow et à la destruction de villages alentours.
Parce qu'au niveau légal, à Heathrow, ils sont déjà au-dessus des normes de pollution et s'ils rajoutent une troisième piste de décollage, il y aura beaucoup plus de vols et la pollution, ça sera vraiment absolument inacceptable, quoi.
Et les gens ont commencé à y vivre et c'était pour résister, oui, à l'expansion de l'aéroport parce que l'aéroport, ils voulaient raser des maisons et construire leur nouvelle piste d'atterrissage sur un ancien cimetière. Donc tous ceux qui ont leur famille enterrée, forcément, ils soutenaient cet éco-village, en fait.
C'était grand ?
Ça faisait 2 hectares.
D'accord.
C'est comme une petite ZAD, en fait. On a vécu là-dedans pendant 3 ans avec une douche qui était donc dans le campement à l'extérieur qu'on avait construit nous-mêmes aussi avec un système de chauffage d'eau au bois et des toilettes compost, enfin vraiment l'éco-village quoi.
L'occupation a commencé en 2010, la moitié du site a été expulsée cette année, ça aura tenu quasi une décennie.
C'est là-bas où on a commencé vraiment à se faire sensibiliser à l'écologie, parce qu'avant ça on n'était pas spécialement dans le mouvement quoi. Et toutes les rencontres qu'on a fait là-bas, on a décidé d'y rester parce que c'était vraiment, ça transformait nos vies quoi. On s'est rendu compte de l'énorme problème qu'il y avait.
Donc forcément, t'as l'esprit qui change. Au lieu d'avoir un esprit individuel, tu te transformes et t'as un esprit communautaire. Donc tu vis plus juste pour toi en fait, tu vis pour la communauté. Et du coup, ça devient plus facile après aussi de te sentir concerné par les problèmes comme le changement climatique et de vouloir agir.
Tu peux me parler d'exemples où t'as senti que ça, qu'il y avait ce shift qui était en train d'opérer en toi ?
En fait, tu commences à aimer de vivre avec les gens et de faire plaisir aux gens, aimer le fait que tout le monde puisse être heureux.
Et pendant tout ce temps-là, vous restez en contact avec votre famille, je ne sais pas comment ils perçoivent ça, c'est les deux frères qui sont partis et puis qui vivent en communauté.
Bah, nos parents, ils sont très ouverts d'esprit. Quand on leur a dit qu'on changeait un petit peu de vie, etc., ils étaient vachement surpris, mais au bout d'un moment, ils sont venus, ils ont même visité l'éco-village. Mais ouais, ils étaient favorables à tout ça, donc on a eu de la chance.
C'est là que Denis a rencontré son amoureuse Annie. Elle s'occupait d'un mouvement qui luttait contre la pollution sur les routes et qui s'appelait Stop Killing Londoners. Arrêter de tuer les Londoniens.
Et après, quand Extinction Rebellion ça a commencé, ils l'ont contacté parce qu'ils se connaissaient, c'était des amis. Ils ont dit, ouais, on a besoin d'avoir le plus de monde possible, on veut faire un truc énorme, quoi.
Eux ont rejoint Annie et le mouvement le jour de la déclaration de rébellion prononcée à Londres devant le Parlement le 31 octobre 2018. Et ce jour-là, c'est Greta Thunberg, la jeune militante suédoise, qui avait prononcé le début de la rébellion.
So everyone out there.
So everyone out there.
It is now time for civil disobedience.
It is now time for civil disobedience.
It is time to rebel.
It is time to rebel.
Et voilà les revendications d'Extinction Rebellion, on dit XR en cours. Il y en a trois. D'abord, la proclamation d'un état d'urgence climatique et écologique. Je les cite, que le gouvernement informe ses citoyens de la gravité absolue de la situation. En deux, l'élaboration d'un plan d'action pour réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2025. En trois, la création d'une assemblée citoyenne qui, aidée d'avis scientifiques, se prononcerait sur des questions climatiques. Dans leur manifeste, on peut lire ceci. L'échec abject de notre gouvernement en matière de protection des citoyens et des générations futures contre les souffrances inimaginables engendrées par la dégradation du climat et l'effondrement social n'est plus tolérable. Nous ne pouvons rester les bras croisés et permettre la destruction de tout ce que nous aimons. Nous avons à la fois le droit et le devoir de nous rebeller face à cette tyrannie de l'idiotie, à ce suicide collectif planifié. Rejoignez-nous. Denis et Rémi rejoignent donc le mouvement. Et puis, il y a quelques semaines, ils sont contactés pour participer à la plus grosse action à ce jour.
C'est pareil, c'est Annie qui m'a envoyé un message sur Facebook. Elle m'a dit, oh, regarde, Denis, cet événement, il y a quelqu'un d'Extinction Rebellion qui cherche des personnes qui savent bien bricoler pour construire une rampe de skateboard. Et nous, vu qu'on fait du skateboard et qu'en plus, on a vachement bricolé dans l'éco-village où on était pendant 3 ans, et ben, on a fait, bah, allez, on saute sur l'occasion. Et on a rencontré cette personne qui était donc Will. Et il nous a dit ouais, qu'il voulait mettre une rampe de skateboard au milieu du pont de Waterloo. Et donc, c'est une idée assez folle, mais assez brillante à la fois, quoi.
Dans un article de l'Obs, je lis ce qui est dit des actions de ces dernières semaines. Des centaines de manifestants ont bloqué des sites emblématiques et très fréquentés de la capitale, comme Oxford Circus ou Piccadilly Circus. Le pont de Waterloo a, lui, été partiellement transformé en jardin.
Le but, c'est pas d'emmerder les gens. Moi, je sais que ma manager, quand je suis allé au travail, alors que c'était au milieu de la semaine où j'étais sur le pont, et elle était là, ouais, c'est inacceptable, etc. Moi, j'ai un peu fait mine basse parce que je voulais pas commencer un argument avec ma manager.
C'est quoi ton travail ?
Je travaille dans un magasin de charité qui vend des vêtements pour les enfants roumains. Donc, j'ai pas voulu démarrer d'argument, mais c'est vrai que c'est un mouvement nécessaire, quoi.
Ta boss était pas contente parce qu'il y avait du trafic et elle savait pas que c'était toi qui étais à l'origine de ce trafic.
Ouais, je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit, mais c'est rien, quoi. Elle m'a dit qu'elle mettait plus longtemps pour aller au travail. Oui, ça, c'est un petit peu embêtant. Prends en compte que moi, j'ai dormi sur un bout de carton sur le pont et j'ai pas fait ça pour mon plaisir, tu vois. J'ai dormi avec un duvet Et je fais pas ça pour moi, pour me faire plaisir, c'est pas le Club Med, quoi. Je fais ça parce que je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Et c'est par empathie pour les autres. Moi, j'aimerais essayer de limiter un maximum les dégâts du changement climatique. Et pour ça, il faut simplement admettre que ça existe. C'est vraiment les politiciens, ils essaient de nous faire croire que du coup, c'est un débat scientifique et que les scientifiques, ils savent pas, etc. Parce que eux, comme ça, ils gagnent du temps. Alors que réellement, les scientifiques, ils sont formels et que c'est juste les politiciens qui essayent de gagner du temps pour continuer à faire du profit, quoi.
Et du coup, est-ce qu'il ne vaut pas mieux devenir politicien à la place des politiciens ?
Il y a déjà des politiciens qui sont venus, qui ont fait des discours. Parfait, après, moi, j'ai pas les années pour devenir politicien. Ça va être trop tard. C'est vraiment une action maintenant qu'il faut. Et il faut convaincre ceux qui sont déjà en position de pouvoir avec la politique. Et il faut les convaincre et changer leur opinion.
Cette initiative sur le pont de Waterloo, comment ça a commencé ? Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui ont été les premiers à interrompre le trafic ?
Ouais. Donc nous, on était dans un van avec la rampe de skate qui était construite à l'arrière du van. Et du coup, on était là et on attendait le signal. Il y avait deux autres vans. Il y avait un camion, en fait, de 7 tonnes 5 qui était à l'autre bout du pont, qui attendait aussi le signal. Et un autre van qui était rempli d'arbres et de plantes. Et donc là, on est arrivé, on s'est garé au milieu du pont, on a ouvert l'arrière, on a descendu tout. Et j'étais impressionné parce qu'en 15 minutes, 20 minutes, le pont était totalement rempli d'arbres. Il y avait le camion qui avait ouvert son côté avec la scène, le système son, et nous, on était en train de remettre la rampe de skate en place.
Et au moment, en attendant le signal, vous aviez un petit peu peur ?
C'est vrai qu'il y avait des petits papillons dans le ventre, ouais. On était là, on attendait. C'était pas nous qui conduisions, il y avait quelqu'un d'autre qui conduisait le van, c'était un van de location. On se disait, ok, on va être les premiers à monter sur le pont, à être au milieu de la route. Et à mettre notre rampe de skate, ouais.
C'est... Et là, du coup, c'est quoi les réactions ? Vous bloquez un pont ? Qu'est-ce qui se passe après ? Parce que moi, j'ai jamais bloqué de pont.
Il faut savoir que Extinction Rebellion, la manière dont ils fonctionnent, c'est qu'ils disent à la police ce qui va se passer. Donc ils ont dit à la police, on va prendre Waterloo Bridge, on va prendre Oxford Circus, on va prendre Piccadilly, on va prendre Marble Arch, et on va prendre le Parlement. Donc ça, c'était cinq locations. On va y être, on y sera à cette date. Et on vous a prévenu, préparez-vous, quoi.
Et quel est l'intérêt de prévenir la police ?
C'est pour éviter que ça s'escalade et qu'il y ait trop d'agressivité, parce qu'on veut vraiment être le plus pacifiste possible, pour éviter que la police soit « qu'est-ce qui se passe ici ?» qu'ils arrivent à toute vitesse et que ça, que ça dégénère. Là, ils savaient, ils vont prendre le pont, ils savent pas à quelle heure et ils savent pas combien on sera, mais dès que les vannes sont arrivées sur le pont, les piétons ont mis la banderole et la police, elle est venue et elle a mis des cônes de circulation pour dire aux voitures de ne pas essayer de forcer le passage parce que t'as pas envie que t'aies un mec qui doit aller au travail qui commence à rouler sur des activistes pacifistes qui bloquent un pont, quoi, parce que dans les villes, tu trouves un petit peu de tout. Donc la police est quand même là pour bien que ça se déroule.
Et comment a réagi la police, du coup ?
La police a été surprenamment sympa. En fait, elle était souriante, elle nous parlait, elle nous disait, ouais, il y en avait pas mal qui étaient d'accord avec nous, en fait, qui comprenaient le problème. Ça faisait bizarre, en fait, parce qu'avec ce qui se passe en France en ce moment, il y a vraiment un énorme décalage. Il n'y a pas eu de bombes lacrymogènes, il n'y a eu aucune violence.
Il n'y a pas eu de blessés et d'œils perdus.
Non. Je sais qu'en France, il y a eu aussi une petite action avec Extinction Rebellion, qui sont aussi totalement pacifistes, hein, et eux, ils se sont fait gazer. Donc c'est vraiment le gouvernement français, pour le coup, il gère d'une manière assez violente les manifestants.
La dépêche AFP dit ceci. Les actions menées par Extinction Rebellion pendant ces 11 journées d'action ont conduit à 1065 arrestations. Et 53 personnes ont fait l'objet de poursuites, selon Scotland Yard. C'est intéressant de comparer la réaction policière face aux manifestations en France et en Grande-Bretagne. C'est ce que fera aussi Claire dans la deuxième partie de l'émission. Elle qui est franco-britannique et qui a, comme Rémi et Denis, un œil de chaque côté de la Manche.
Les gens qui savent, qui ont dit « moi, ok, je suis prêt à me faire arrêter, je suis prêt à aller jusque-là pour le changement climatique », eh ben, ils sont tous marqués sur un petit calepin, etc. T'as quand même des sessions de training, donc des petits entraînements où ils donnent le numéro de qui il faut appeler, etc. Et donc c'est tout super organisé. Et donc la police, elle vient. Elle venait par vague, peut-être une fois toutes les deux heures. Ils savent qu'il y a des personnes assises et elles ont décidé de pas bouger, quoi, alors que ceux qui sont debout, ils peuvent juste se balader. C'est beaucoup plus dur de les arrêter. Donc ils vont direct vers les personnes qui sont assises et ils disent, voilà, là, je te donne ton warning, ton avertissement. On te donne le choix, c'est bien clair, etc. Aucune violence. Et l'activiste, il reste assis, il dit, ouais, je comprends. Et il décide de pas bouger. Et après, la police revient une minute après. Et soit l'activiste se lève et il part avec la police, soit il fait le mort et la police le soulève, mais sans violence, quoi. Donc la plupart des gens font le mort parce que ça utilise 6 policiers au lieu d'en utiliser 2 qui marchent. Et donc comme ça, ils peuvent arrêter moins de personnes et on dure plus longtemps sur le pont. Et dès que quelqu'un se faisait emmener, tout le monde applaudissait, tout le monde chantait, etc. C'était pas du tout comme la France, quoi.
Vous vous êtes fait arrêter ?
Non, je me suis pas fait arrêter. J'avais un peu trop peur par rapport au fait que je suis pas anglais. Vu que la situation est loin d'être claire avec le Brexit, etc. Tout le monde en a parlé littéralement. Je remotionne encore, mais mon manager qui me dit « c'est pas comme ça que tu fais passer un message ». Ah ouais, mais tu l'as pas reçu le message peut-être ? Et est-ce que pas l'entièreté de l'Europe a reçu le message tellement ça a été gros et que toute la presse en parle ? Mais les gens savent qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à faire le changement, quoi.
Et oui, et Claire à Paris a observé de près. On la retrouve après Lizzo. Voilà Juice, merci à Djoubaka pour ce choix de musique frétillant.
I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. Time to put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Don't even gotta try. I like shouting nigga better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. Time to put it in the proof.
Vous écoutez l'émission Full Continental, une émission transfrontalière puisqu'elle est émise sur France Inter et sur la première de la radio-télévision belge francophone. Et dans cet épisode 36, on est avec des militants d'un mouvement qui s'internationalise alors même que nous parlons.
Extinction Rebellion est un mouvement de désobéissance civile qui veut alerter sur l'urgence climatique et qui donc, par définition, n'a lui non plus pas de frontières. On est donc entre Londres et Paris, en discussion avec trois jeunes qui ne se connaissent pas, mais qui tous participent aux actions. On a entendu Rémi et Denis, voilà maintenant Claire. Claire, elle est née dans le 91, son père est de la banlieue parisienne de Orly, sa mère de banlieue londonienne, d'un lieu dont je vais lui laisser prononcer le nom.
Elle est née à Hemel Hempstead, et elle est arrivée en France en tant que fille au père. Elle a rencontré mon père et elle est restée, et voilà.
Claire dit qu'elle a deux langues, l'anglais, sa langue foyer, et le français, sa langue de scolarité. Elle a aussi deux cultures, et notamment deux cultures militantes. Son père est très engagé en politique, notamment auprès des Gilets jaunes. Sa réflexion à Claire a été beaucoup nourrie par tout ça. Claire a grandi dans le 91, elle a été scolarisée dans un collège de ZEP, définition zone où l'action éducative est renforcée pour lutter contre l'échec scolaire. Elle dit que ça a été important pour elle parce qu'à l'époque, tout le monde était mélangé, et qu'ensuite, en arrivant à Henri IV et dans les grandes écoles, il n'y avait plus de mélange du tout.
Mais oui, c'est plutôt a posteriori qu'on se rend compte qu'il y a des décalages qui se créent. Par exemple, enfin moi, mon père, il est ouvrier, du coup, et au fur et à mesure, on est devenu un peu différent sociologiquement parlant, en fait. C'est ce qui nous a pas éloigné, mais ça, voilà, ça.
Claire est boursière, elle a été prise pour une prépa qui prépare à la prépa, puis elle a été prise par la prépa elle-même, et en internat, elle dit qu'elle n'a plus fait que travailler. Un été, alors qu'elle hésitait à arrêter les concours, les études, elle a décidé pendant 15 jours de rejoindre un groupe de volontaires qui participait à une radio pirate en Italie, dans les Pouilles. Elle s'est inscrite à un service civil international et elle les a rejoints dans un bidonville au milieu des champs, construit par des personnes migrantes qui se rejoignaient là pour la saison des tomates. Claire dit « Jusque-là, j'avais été très scolaire, très studieuse. Et tout à coup, ça a été une baffe. En quelques heures, Claire est sortie des livres et de la théorie. »
Donc on vivait avec eux, on vivait dans les mêmes conditions qu'eux.
C'est-à-dire, du coup, c'est dans...
Du coup, on dormait dans une petite baraque. Et du coup, c'était pas de toilette. Fallait marcher loin, dans un champ. Il n'y avait pas de douche non plus. Donc c'est vraiment tout ce qu'on prend pour complètement acquis dans nos quotidiens. Ça y est pas, en fait. Ça permet vraiment... de se poser aussi les bonnes questions. Et c'était assez dur aussi, parce que du coup, tous les matins, vers 4-5 heures, ils partaient dans des vannes, on les emmenait ramasser les tomates dans des champs, et du coup, ils étaient payés à la cagette. Du coup, quand on les emmenait dans un champ, il y avait une quantité de tomates limitée, du coup, ils étaient en course les uns contre les autres pour ramasser le plus de tomates possible, pour gagner le plus possible à la journée. Et tout ça dans des conditions où c'était du 45 degrés. Les lieux où ils bossaient, c'était pas forcément ravitaillé en eau. Et dans les 15 jours où moi j'y étais, il y a eu un décès, sur le lieu de travail. Et bien sûr, ils travaillaient au noir. Et en fait, là, on se rend compte de la brutalité du monde, quoi.
En rentrant, Claire décide de postuler pour rentrer à Sciences Po en master droit de l'homme et action humanitaire. Elle se dit que ça permettra de faire avancer les choses sur le terrain. Et puis elle apprend qu'elle est admissible à Sciences Po, mais aussi à l'ENS, Normale Sup en philo. Elle décide de faire les deux masters, qu'elle aura terminés l'année prochaine. Mais malgré ces deux masters, elle n'a pas encore trouvé la réponse à cette question de savoir comment être dans le concret. Elle se demande s'il faut qu'elle tente les concours de la fonction publique.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire changer les choses. Et je sais pas à quel point, en fait, c'est à partir de là qu'on les fait changer. Donc je me pose pas mal de questions.
Claire, au fil de ses rencontres et de ses lectures, de plus en plus se rend compte que les causes migratoires et climatiques sont liées de très près.
Jean-Baptiste Fressoz, il parle d'apartheid écologique, en fait. Une pénurie d'endroits sur Terre où il fait bon vivre. Et du coup, forcément, ça va provoquer des migrations en masse, mais qui vont pas être des migrations parce que les gens préfèrent habiter dans un autre endroit. C'est juste être des questions de survie, en fait.
Je demande à Claire si, parmi ceux qui étudient avec elle dans les grandes écoles de Lyon et Paris, s'il y en a beaucoup qui pensent comme elle, qui s'engagent eux aussi dans ces mouvements. Elle répond qu'à Normale Sup, oui, il y a cette sensibilité, mais moins à Sciences Po, où ça dépend des choix de master.
Par exemple, à Sciences Po, le cours d'économie que tous les Master 1 ont, c'est vraiment l'économie orthodoxe, Il n'y a pas de questionnement sur la notion de croissance. Il n'y a pas vraiment de remise en cause de certains aspects de la mondialisation. Enfin voilà, sur le bien fondé de l'idée de libre-échange, qui sont des vraies questions qui sont directement liées à la question écologique. C'est la question fondamentale. Notre modèle économique, c'est ça qui nous a menés là où on est. Et du coup, je trouvais ça inquiétant que la future élite, avec des guillemets, soit ça qu'on lui enseigne, en fait.
La semaine prochaine, on va parler de notre système démocratique et de propositions, notamment numériques, pour le faire évoluer. En attendant, Claire a surtout voulu faire évoluer le regard qu'on porte à l'urgence climatique. Et quand elle a vu ce qui se passait à Londres, elle a décidé de rejoindre le groupe Extinction Rébellion France. Comme Denis et Rémi, elle a participé à l'action de déclaration de rébellion. Eux, c'était à Londres, donc elle à Paris, devant la Bourse. Et on entend là sa prise de parole.
Une question enfin honnête sur le sujet. Le mouvement britannique est né autour de cette exigence. Tell the truth. Le gouvernement, les élus, les entreprises doivent reconnaître les menaces inédites qui pèsent aujourd'hui sur l'ensemble de la biosphère.
Comment ça se passe quand tu as envie de rejoindre Extinction Rébellion? Tu écris un message sur la page Facebook ou tu...
Alors du coup, à partir du site, on peut rejoindre le forum, qui est une espèce de base à partir de laquelle on s'organise. Après, il y a plusieurs outils qu'on utilise. Et en fait, il y a un système de marrainage-parrainage, c'est-à-dire que une personne qui rejoint le mouvement va se voir attribuer un parrain ou une marraine pour vraiment déjà poser un peu un visage sur ce qu'est le mouvement et pouvoir commencer de manière concrète à agir.
J'ai rencontré Claire la semaine dernière. En parallèle, il y avait les grandes manifestations à Londres. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je parte là-bas pour couvrir ce qui était en train de se passer. Et quand j'ai décidé de partir à Londres rencontrer Rémi et Denis, alors que j'étais sur le point de monter dans le train, j'ai reçu la dépêche qui disait qu'après 11 jours de blocage, Extinction Rébellion avait décidé de marquer une pause pour dialoguer avec les responsables politiques. Ça coïncidait vraiment presque parfaitement avec mon arrivée pour couvrir un mouvement qui donc s'arrêtait. J'ai suivi depuis le train la cérémonie de clôture. C'est ce qu'on appelle le sens du timing.
Salut, je suis dans le RER, donc je fais un petit test pour voir si les enregistrements marchent bien.
Je pense à mon arrivée à Londres, les manifestations commençaient à Paris avec Claire, alors on est resté en contact sur WhatsApp et elle m'a tout raconté à distance.
À quoi m'attendre parce que je connais pas en fait tous les détails de l'action qui sont gardés plutôt secrets jusqu'au dernier moment. Là, du coup, je suis sur le point d'arriver sur la place en question, enfin, j'espère. Et je vois déjà des drapeaux XR à l'horizon. Alors là, il y a quelqu'un qui a pris le micro. Du coup, je pense qu'on va être briefé.
Ok. Ça y est, vous ne bougez plus, vous ne voyez plus, vous ne respirez plus, vous êtes mort pour symboliser ce qui nous arrive dans la gueule.
On vous explique un peu le déroulé de l'action.
Il
y a un texte qui va être lu et qui a une certaine phrase. Ce sera le signal du coup pour commencer à s'allonger du coup et commencer le die-in.
Le die-in, c'est une forme de résistance non violente. Les participants sont allongés sur le sol en public comme s'ils étaient morts pour symboliser la disparition des espèces végétales et animales. L'homme.
C'est une action sur laquelle il n'y a quasi pas de risque de garde à vue.
Sur la page Facebook du mouvement Extinction Rébellion, voilà comment il raconte ce qui s'est passé ce jour-là. Je cite, « La première action simultanée du mouvement Extinction Rébellion a eu lieu dans plusieurs villes du monde suite à l'initiative lancée par le groupe XR Berlin. » À Paris, au cœur de la ville, sur le parvis du centre Georges Pompidou, une centaine de personnes ont formé un sablier. Des die-in similaires ont eu lieu à Lyon, Marseille, Grenoble, Rouen, Berlin, Hambourg, Cologne, Londres, Glasgow, Oslo, Helsinki, Lund, Rome, Gironde, Barcelone, Grenade, Majorque, Boston, Sydney, Melbourne et Wellington.
Un des autres événements marquants de ce mouvement climat, c'était cette pétition.
Claire me parle alors de l'affaire du siècle. Cette pétition contre l'État français pour inaction climatique qui est devenue la plus importante pétition avec 2 millions de signataires.
Mais ça revenait juste à 2 millions de personnes qui avaient cliqué seules derrière un écran. Donc quelque chose de très abstrait et de pas du tout corporel et physique. Ce que je trouve
fort dans cette idée d'occuper, de bloquer, toujours de manière non violente, hein, chez Extinction Rebellion, c'est avec nos corps qu'on dit qu'on n'est pas d'accord. C'est symboliquement fort d'interposer nos corps, nos chairs, à ce système qui, en fin de compte, a aussi un impact très direct sur nos existences corporelles, parce que c'est notre santé, c'est notre survie quelque part qui est en jeu.
Si vous êtes d'accord, et comme le montage radio le permet, revenons quelques instants à Denis et Rémi, militants du même collectif XR à Londres.
Maintenant, tous les trois, on a le projet de faire un éco-village en France quand on revient de Londres.
Tous les trois, c'est eux et leur petite sœur qui a 20 ans et qui vit toujours à Lyon, près de leurs parents.
Un éco-village bien ancré avec un système d'école, etc. quoi.
Ce serait où alors ça ?
Eh bien ça, c'est le plus dur de trouver. Avec le changement climatique et les problèmes qui restent d'arriver, on ne voudrait pas s'installer quelque part et que ça brûle.
Ou que l'eau monte.
Oui, ou que l'eau monte. Il faut bien prévoir le coup. C'est sûr qu'on aimerait bien être à la mer, mais bon, si tout brûle autour d'ici 10 ans, c'est un peu loupé.
Mais donc c'est comme ça que tu vois l'avenir ou quelle partie de la France, qu'est-ce qui va brûler ?
Bah, nous, on aime beaucoup l'arrière-pays niçois, mais c'est vachement sec et on a peur que d'ici 10 ans, il y ait beaucoup, beaucoup d'incendies. Après, j'espère pas, mais...
Les feux, ils sont déjà là. Enfin, les feux de forêt, il y en a plus que jamais, quoi. Je crois que cette année, en Angleterre, ils ont déjà eu plus de feux de forêt que ce qu'ils ont d'habitude sur toute l'année, alors qu'on n'est même pas encore au mois de juin, quoi. Donc c'est assez effrayant, quoi.
Donc pas un coin trop sec de la France. On envoie quand même des bisous et des câlins à tous ceux qui habitent dans l'arrière-pays de Nice. Accrochez-vous. Et sinon, il y a d'autres conditions.
Le risque principal, ce qui m'effraie le plus avec le changement climatique, c'est un manque de nourriture. C'est-à-dire que pour l'instant, la nourriture, c'est très centralisé, enfin, c'est très de la monoculture. Et ça, c'est pas prêt pour recevoir des changements trop brusques dans les saisons, quoi. Parce que, et même si on se dit que bon, oui, c'est très progressif le changement climatique, on a encore des années, des années et des années, mais le fait est que si t'as deux saisons où t'as des trop fortes chaleurs et des trop fortes pluies et ça tue tes champs, ben, en deux saisons, on est déjà, ça va déjà être la crise alimentaire, quoi.
Ça, vous y pensez beaucoup ? Est-ce que ça vous réveille la nuit ? Est-ce que...
C'est super stressant, ouais. Bon, après, voilà, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individuel si on a espoir de changer les choses, rejoindre Extinction Rebellion, quoi. Essayer de faire que tout le monde soit au courant de ce qui risque de se produire et que tout le monde commence à, au lieu de mettre du goudron et des pavés devant leur maison, mettre des légumes et des buissons, quoi.
On a cette sensation d'avoir un peu un devoir d'engagement. Enfin, on n'est pas une génération où on peut juste se poser, construire sa vie et puis se contenter d'être heureux et confortable, en fait. On est une génération où si nous, on ne fait pas bouger les lignes de manière rapide et radicale, la possibilité pour nous d'être heureux et de pouvoir avoir des enfants sans se poser la question de « mais dans quel monde je mets au monde ?» elle est compromise, cette innocence-là, en fait. Je trouve qu'on est une génération où on est obligé d'être grave et sérieux, enfin, et engagé, du coup. Enfin, moi, je le vis un peu comme ça.
En Grande-Bretagne, ces jours-ci, on profite de la pause dans le mouvement pour évaluer les réussites de ces derniers jours. Et la plus grande, le chef de file travailliste, Jeremy Corbyn, a exprimé sa sympathie pour le mouvement et il a obtenu du Parlement de voter sur l'état d'urgence climatique. Un député du Labour a lui appelé à zéro émission d'ici à 2050. Les XR proposent plutôt 2025. Par ailleurs, 9 membres d'Extinction Rebellion vont se présenter aux élections européennes le 26 mai. Leur liste s'appellera Climate Emergency. Merci à Benjamin Riquet à la réalisation, Victoire Faure et Clémence Cabouret au montage. Merci à Claire Brault pour ses illustrations. Vous retrouverez sur le site de franceinter.fr, sur le site de La Première, sur notre page Facebook, Instagram et sur Twitter. Lundi, en kiosque, Full Continental sera dans le journal Libération, comme toutes les semaines, jusqu'aux élections européennes de ce 26 mai prochain. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.